Je me suis dit, au lieu de faire juste un message sur le livre des Actes, eh bien, on va faire comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va aborder des textes difficiles. Et donc, j'ai commencé la dernière fois avec Ouza. Vous vous souvenez de cet homme qui vient arrêter le temple, pas le temple, mais le tabernacle de l'Éternel, qui le retient au moment où il allait tomber, parce que le char avait glissé. Vous vous souvenez de cet épisode? C'est un homme sincère, vraiment, et paf! Foudroyé net! Et là, on se dit, oh, quand on regarde le texte, on dit, mais c'est dur, quoi. C'est dur. Vous vous souvenez de la suite? Eh bien, on va faire la même chose, mais avec une autre circonstance et encore beaucoup plus violente. Quand je dis beaucoup plus violente, vous allez voir que les textes qu'on va lire, là, dans quelques instants, vont probablement vous heurter, surtout si vous n'avez jamais lu les textes de l'Ancien Testament. Je suis désolé si vous êtes là pour la première fois, mais on aborde des questions difficiles. C'est ce que j'ai appelé des os. Moi, quand j'étais petit, ça m'est arrivé une fois de manger du lapin. Si vous connaissez le lapin, tout le monde ne mange pas du lapin, mais la caractéristique du lapin, c'est que les os sont très pointus. Et il y avait un tout petit bout d'os qui était au milieu de la viande. J'ai pas fait attention, j'ai avalé et il est resté coincé. Parfois, il y a des textes dans la Bible qui ont cet effet. Il reste là et on a du mal à les avaler parce que c'est difficile. Alors, je ne peux que prier que le Seigneur touche votre cœur. En tout cas, on va pas aller comme certains l'ont fait, c'est-à-dire que quand on prend la Bible, on voit des textes difficiles et on dit « Ah, mais ceux-là, ils sont pas inspirés, ça a été un rajout. » Non, non, on prend toute la Bible, rien que la Bible, et on fait avec. C'est pas nous qui décidons du menu, c'est le grand chef. Et la Bible, nous la considérons comme 100% inspirée, donc même les textes difficiles, eh ben, on doit les prendre comme ils sont, et c'est ce qu'on va faire ce matin. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui aiment prêcher sur cette thématique-là. Donc j'ai pris un risque, mais ça va, j'ai des amis avec moi, et le Saint-Esprit et la Bible, en général, on va réussir à trouver des solutions. C'est ce que je souhaite en tout cas. Je n'ai pas découvert le Graal, mais j'ai trouvé quand même une dizaine de raisons qui peuvent expliquer l'extermination de certains peuples de Canaan, notamment de Canaan. Ça va être difficile, mais on va s'y atteler tout de suite. Et on va lire ces textes l'un après l'autre. On va peut-être pas tout lire, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. En tout cas, dans Josué et dans les Deutéronomes. Des textes qui sont adressés au départ à Moïse. Ok? Deutéronome. Et c'est le premier texte qu'on lit ici. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour que tu en prennes possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Guergasiens, les Amoréens, les Cananiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens, ces sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsqu'il te les aura livrées et que tu les auras vaincues, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Ça pique, là? Tu les extermineras. Et le mot veut bien dire exterminer, c'est-à-dire créer un anathème, séparer, vraiment, pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec elle et tu n'auras pour elle aucune pitié. Premier os. Attendez, c'est pas fini. Deuxième os, Deutéronome. Quant aux villes de ces peuples que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession, vous n'y laisserez pas subsister âmes qui vivent. Vous exterminerez totalement pour les vouer à l'Éternel. Et tout à la fin, l'Éternel, votre Dieu, vous l'a ordonné. C'est un ordre d'extermination donné par Dieu à Moïse. Josué, son successeur, après que Moïse meurt, c'est Josué qui lui succède à la tête du peuple de Dieu, et regardez ce qu'il dit à Josué. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur, le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. On parle de Jéricho ici. Ils vouèrent à l'interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs et moutons. Bœuf, mouton et âne. Ils vouèrent l'interdit. tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards. Après avoir chanté des louanges sur la grâce de Dieu, la merveilleuse grâce de Dieu, c'est un peu difficile à avaler, vous ne trouvez pas ? C'est pas fini. J'ai l'impression que c'est aléatoire, là. Ça marche pas. Tu peux avancer, s'il te plaît ? Bon, je vous lis la suite, prenez vos Bibles. Josué 8, la conquête de Haï. Josué 8, versets 22 à 27. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens de Haï se trouvèrent pris de part et d'autre au milieu d'Israël qui les bâtit sans laisser ni reste ni rescapé. Quant au roi de Haï, ils le saisirent vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants de Haï à l'extérieur, dans le désert où on les avait poursuivis et que tous jusqu'au dernier furent tombés sous l'épée, tout Israël revint à Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Voilà, vous avez ici le texte. Deuxième os, la personne qui parle. C'est pas terminé. Josué 10, verset 28, et là c'est Makeda. Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée ainsi que son roi. Il les voua l'interdit ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il ne laissa pas un rescapé et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Je vous avais averti les amis, hein. Je vous ai dit, ces récits sont choquants. Et honnêtement, à chaque fois que je les lis, j'ai un frisson qui me traverse les chines. Je me dis, waouh, c'est violent. C'est violent. Alors on comprend pourquoi non seulement certains chrétiens veulent détourner ces textes et dire ils font pas partie de la Bible, et comment certains non-chrétiens envisagent Dieu. Je vous cite ici Richard Dawkins, qui est même un des plus grands détracteurs de la foi chrétienne. Voilà ce qu'il dit lorsqu'il a lu ces textes. Il dit de Dieu, c'est un des plus déplaisants personnages de toute la littérature de fiction. Vous voyez, il prend ça comme une fiction. Jaloux et fier de l'être, c'est une brute, misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, nuisible, mégalomaniaque, sadomasochiste, capricieuse et malveillante. Voilà la conclusion de Richard Dawkins à la lecture de ces textes. Qu'est-ce que vous répondriez à cet homme si c'était votre collègue de travail ? Bon, bah, tu commences par l'évangile de Matthieu, hein ? On va pas aller dans Josué, ni Deutéronome, Lévitique. Ça va être compliqué, les amis. J'ai commencé la Bible à Genèse. Je peux vous dire que c'est ce qui se passe. Alors moi, je lui mettrais entre les mains ce livre-là. Excellent livre qui est paru il y a 2022 aux éditions Clé. Dieu est-il coupable de génocide? Je me suis appuyé en partie sur ce livre et d'autres podcasts, notamment celui de Florent Varac. Le podcast numéro 110, et moi-même j'avais prêché ce texte il y a une quinzaine d'années, et donc j'ai dû réviser mes notes, et je les ai du coup enrichis. Alors maintenant j'aimerais, parce que là vous avez l'os qui est vraiment bien coincé, hein. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un même, il y en a peut-être plusieurs, là il y a une grosse boule qui est là qui passe pas. Alors mon but ce matin, c'est qu'on va essayer de digérer tout ça, et que vous puissiez repartir sans ces os qui sont coincés. D'accord ? Vous aimeriez en savoir plus ou je vous laisse là-dessus ? Essayez d'avaler, il y a du bon café. Je pense qu'il vaut mieux rester. Je vais vous donner ici 10 raisons qui expliquent le jugement, 10 raisons qui expliquent le jugement divin d'extermination. La première raison, c'est que Dieu a choisi cette terre pour son peuple. Et ça, personne n'y peut rien. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3, Dieu est dans le ciel, et qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Ce qu'il veut. Personne ne peut lui donner d'ordre. Et donc il a choisi un peuple, et c'est ce qu'on voit en Genèse chapitre 12. Là, il faut remonter avant ce moment tragique en Josué de la conquête, et on voit, donc 5 siècles auparavant, une promesse qui est faite à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, il s'appelait pas encore Abraham, Il lui dit, va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, je donnerai ce pays à ta descendance. Donc, ce territoire, Canaan, Dieu l'a réservé pour le peuple qui allait être porteur de la révélation divine, porteur des Écritures, porteur de la venue du Messie. C'est la lignée du Messie allait passer par ce peuple. Et donc, en tant que souverain, Dieu est libre de se réserver un lopin de terre sur lequel il va manifester sa présence de manière particulière. Dieu fait ce qu'il veut, en fait. Mais il y a un petit facteur, c'est que cette promesse, elle n'a pas été appliquée immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas le moment. Son peuple, Israël, devait encore apprendre des leçons. Et c'est un peuple, et on le lira ce texte dans le Deutéronome 9, un peuple au cou raide, hein, qui a du mal à baisser et à regarder le sol. Un peuple au cou raide qui ne veut pas se soumettre à son Créateur, qui veut en faire qu'à sa tête, qui veut définir lui-même les règles. Et donc Dieu va devoir le faire passer par des moments difficiles. C'est ce qu'on va voir en Genèse 15. Alors je passe ici deux textes. Genèse 15, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Pendant 4 siècles, 400 ans. Puis ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous voyez, il fallait que l'iniquité des Amoréens, donc ils habitaient au territoire de Canaan, eh bien soit arrivée à son comble. C'est-à-dire que il a fallu attendre 5 siècles, en fait, en tout, avant que Dieu intervienne. Et c'est le propre de Dieu. Il est pédagogue, il connaît l'histoire à l'avance, et donc il sait exactement ce dont son peuple a besoin. Regardez le caractère de Dieu ici que Dieu révèle à Moïse. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Si vous avez bien compté ici, combien de fois la bénédiction s'applique ? 1000 fois. Combien de fois la malédiction ? 4e génération. Donc, 1000 générations qui Dieu pardonne jusqu'à 1000 générations, et Dieu va punir jusqu'à la 4e génération. La proportion n'est pas vraiment la même, hein ? Ça veut dire que Dieu est beaucoup plus patient, miséricordieux qu'il est en colère. C'est ce qu'on doit retenir ici. Hein, on ne va pas compter, mais la proportion n'est même pas comparable. 1000 par rapport à 4. Hein, si vous dites je fais 4 kilos, un éléphant qui fait 4 kilos et un éléphant qui fait 1000 kilos, c'est pas le même éléphant, hein. On est d'accord ? Ou un bébé ? Un bébé de 4 kilos et un bébé de 1000, honnêtement, c'est un peu... C'est la proportion. C'est la proportion. En fait, lorsque l'iniquité va arriver à son comble, c'est-à-dire que la coupe va déborder, Dieu, il ne peut plus, là. Là, on a atteint le sommet. Mais en attendant, Dieu a patienté, Dieu a patienté, Dieu a patienté, Dieu a patienté. Je ne sais pas, quand vous avez besoin de quelque chose, alors que vous souffrez, vous allez prendre un médicament ou prendre un rendez-vous chez votre médecin assez rapidement, d'accord ? Eh bien, Dieu, il attend, il attend, il attend l'extrême limite. 4 siècles. 4 siècles avant d'intervenir. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est patient ? Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est miséricordieux ? Ok. Parce que c'est ce qu'il a fait avec les Cananéens ici. Il a attendu. Et donc, ça c'est Moïse qui demande. Alors il y a eu Abraham, Ça, c'est Moïse. Et ensuite, eh bien, on va passer à Josué. Lorsque l'iniquité arrive à son comble, que la coupe déborde, c'est là que Dieu va susciter un libérateur. Moïse sera l'instrument de Dieu pour libérer le peuple d'Israël qui était aux mains des Égyptiens. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Il y a eu les 10 plaies, ensuite la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe à la sortie d'Égypte? On voit ce miracle extraordinaire. Dieu va ouvrir la mer. Et ça, personne, aucun magicien n'était capable de le faire, ni d'ailleurs une partie des 10 plaies en tout cas. Et là, il va ouvrir la mer. Et les Égyptiens vont traverser, les Israélites vont traverser à pied sec. Ils auront terminé de traverser, les Égyptiens vont s'engouffrer à leur poursuite. Et là, certains pensent que c'était juste une flaque d'eau. Ils vont tous se noyer dans une flaque d'eau. C'est quand même pas anodin, parce que le texte dit qu'ils sont tous morts. Hein. Quand on veut relativiser les textes de la Bible, on tombe dans ce travers-là, dans l'absurde en fait. Et oui, tous les soldats sont morts, ceux qui poursuivaient le peuple d'Israël, parce que Dieu a enlevé ces murs qu'il avait élevés pendant quelques minutes, quelques heures, pour que 1 million de personnes traversent la mer, et ensuite il a enlevé cette force. Et ils ont tous été noyés. Mais vous savez que une fois que Moïse meurt, le flambeau est passé à Josué. Et pour montrer que Dieu est aussi avec Josué, qu'est-ce qu'il fait? Le même miracle! Un miracle extraordinaire que personne ne pouvait imiter encore une fois, mais il va le faire avec le Jourdain. Et c'est là qu'on lit Josué 5:6. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert. Ils avaient la nuque raide. Et regardez pourquoi. Jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. Quand je vous disais qu'ils avaient c'était un peuple à la nuque raide, 40 ans les amis. Dieu a fait du ménage dans la bergerie. C'est ça le temps, en fait, des 40 ans d'Israël. Il a attendu que tous ces hommes qui étaient rebelles meurent. C'est terrible. Mais il a commencé par juger son propre peuple. Voyez ? Et donc quand il demande ensuite à Josué, parce que c'est lui qui va devoir être l'acteur, quelque part le militaire qui va prendre les armes et qui va agir au nom de Dieu, eh bien il l'a fait au milieu de son peuple. Donc Dieu ici voulait que son peuple soit entièrement à lui, mis à part, saint, qu'il le craigne et lui fasse pleinement confiance avant d'entrer dans la terre promise. C'est pour ça qu'il fait ce ménage-là. Troisième raison, c'est que les occupants de la terre promise ont été avertis. Au moment du départ de l'Égypte, Dieu avait multiplié les miracles par la main de Moïse et de Josué. Et donc, quand il va faire ce miracle, regardez la réaction des occupants de Canaan. Donc, Josué fait traverser une fois de plus Israël au travers du Jourdain. Donc c'est moins grand que la mer, mais quand même, si vous essayez de traverser, là ce matin on est passé à côté de la Rance, je peux vous dire qu'avec le bouillon qu'il y a, c'est pas nous qui allons juste arrêter l'eau comme ça. Il faut vraiment une force pour faire un barrage, et puis après il faut pas que l'eau elle déborde. Donc vous voyez, il y a un miracle là qui est là. Il va faire la même chose avec le Jourdain, et donc les gens vont traverser à pied sec. Et ça, c'est un message qui a envoyé, un message fort qui était envoyé pas seulement aux Israélites, mais aussi à toutes les nations environnantes. Regardez la réaction. Verset 21. « Puis il dit aux Israélites, lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, à pied sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous pour que nous la traversions. » Vous voyez, il fait le même miracle. C'est le même Dieu. Mais regardez la suite. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre, pas seulement les Israélites, mais tous les peuples de la terre, sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-même vous révériez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. Et regardez la réaction ici des rois. Verset 1. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'il l'ait traversé. Alors, et ça c'est leur réaction maintenant, alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. On voit un miracle extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leurs moyens. Au lieu d'en venir à l'adoration de Dieu, ils sont paniqués, ils savent pas quoi faire. Et vous voyez, les miracles ne suscitent pas forcément la foi. On le sait, dans le Nouveau Testament, c'est une évidence. Mais là, encore une fois, on a un miracle évident qui ne suscite pas la foi de ces gens. La preuve, c'est que Josué va devoir les exterminer. Est-ce qu'ils étaient avertis? Oui. Tout le monde était au courant. Tous les rois, vous l'avez lu comme moi, tous avaient vu et avaient entendu. Alors, pas tous vu, mais ils avaient tous entendu que le Dieu d'Israël était là, était avec ce peuple et qu'il fallait pas le toucher. Et c'est pas ce qui s'est passé. Alors, peut-être que vous pensez que ce genre de péché ne mérite pas une sanction si sévère. Hein, je sais pas, hein, vous vous dites, oh, c'est juste des idolâtres, des gens qui adorent d'autres dieux, des gens qui n'ont pas la même croyance. Hein. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans une société où on doit se tolérer, et c'est super. On est content que nous ne soyons pas sous la persécution, n'est-ce pas? Sauf que là, il y avait plus qu'un simple détournement de nos yeux, des yeux des Cananéens. Et c'est la quatrième raison, c'est que les pratiques cananéennes étaient littéralement abominables. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu encore du jugement de Dieu. Vous allez peut-être le devenir après ce point. Et là, on va passer un peu de temps sur ce quatrième point. Regardez Deutéronome, et vous prenez vos Bibles, Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Je ne les ai pas mis, parce que ce serait long à lire ici. Mais regardez les pratiques de ces peuples. Lorsque vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte des spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Vous avez vu la raison pour laquelle Dieu va exterminer ces peuples? C'est à cause de toute cette liste de péché. Et attendez, c'est pas fini. Lévitique, chapitre 18, versets 21 à 24. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler avec elle. C'est une confusion. Zoophilie, homosexualité, infanticide. Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que sont souillées les nations que je chasse devant vous. Deutéronome chapitre 23, versets 17 à 18. Aucune femme parmi les filles d'Israël ne sera prostituée. Et aucun homme parmi les fils d'Israël ne se livrera à la prostitution, parce que c'étaient les pratiques de ces peuples. Tu n'apporteras point à la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, terme probable pour une prostituée rituelle, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà les pratiques des Cananéens, les amis. Sorcellerie, divination, nécromancie, débauche sexuelle, homosexualité, zoophilie, prostitution sacrée, infanticide. Et c'est ce dernier point sur lequel je voudrais insister. Parce que c'est déjà pas terrible jusque-là. On n'a pas les détails. Mais on va regarder les détails. Et j'ai puisé ici des affirmations dans ce livre. Donc ce sont des théologiens qui décrivent d'après ce qu'ils ont trouvé aussi des vestiges archéologiques. Et donc ce qu'on trouve dans d'autres tablettes que celles de la Bible. Écoutez bien. En plus de la divination, de la sorcellerie, des relations... Pardon. On boit un coup. Ça patine. Un peu de lubrifiant dans le système. Je répète. En plus de la divination, de la sorcellerie et des relations sexuelles dans les temples, l'idolâtrie cananéenne impliquait un large éventail de pratiques moralement répugnantes qui reflétaient la perversité sexuelle des dieux cananéens de la fertilité. Écoutez, adultère, homosexualité, travestissement, pédophilie, hommes qui abusaient sexuellement des petits garçons, relations sexuelles avec des animaux et inceste. C'est pas fini. Sacrifice d'enfants. L'une des pires pratiques était le sacrifice d'enfants. Moloch était la divinité cananéenne, et je vous ai mis ici une image de Moloch. Divinité cananéenne du monde des morts, représentée comme une idole avec une tête de taureau, c'est ce que vous voyez ici, et un corps humain, dans le ventre duquel on allumait un brasier et dont les bras tendus devaient recevoir un enfant destiné à périr par le feu. Et ce sort n'était pas réservé seulement aux nourrissons, des enfants âgés de 4 ans lui étaient offerts en sacrifice. Ils avaient érigé une statue de Cronos, et ça c'est une autre statue. Les Cananéens, ils avaient quand même pas mal de créativité. Voilà. Ils avaient érigé une statue de Cronos en bronze, dont les mains jointes étaient étendues en forme de coupe, au-dessus d'un chaudron en bronze dans lequel on allait brûler l'enfant. Lorsque les flammes entouraient le corps, la bouche semblait esquisser un rictus et les membres se recroquevillaient jusqu'à ce que le corps se soit suffisamment rétracté pour entrer dans le chaudron. Les découvertes archéologiques indiquent que les enfants ainsi brûlés vifs se comptaient parfois par milliers. Et j'ai bien aimé ce qu'il y avait dans la note de bas de page. Ça, c'est par rapport à la zoophilie. Cela pour expliquer pourquoi Dieu a même ordonné la destruction des animaux domestiques. C'est ce que vous vous rappelez, hein, c'est ce qu'il demande à Josué. Personne ne voudrait vivre à côté d'animaux habitués à avoir des relations sexuelles avec les humains. Et Tinker, donc l'auteur du livre, conclut « Les actes des Cananéens décrits par Jones n'étaient pas des excentricités rarissimes commises par une minorité. Non, c'était au contraire des pratiques caractérisant la société dans son ensemble. » Mes amis, si de telles pratiques, si on avait connaissance de telles pratiques aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'en Occident, on réagirait? Ben oui. Je pense que ça ferait pas seulement la une des journaux télévisés, mais on agirait. On ferait débarquer des soldats, l'armée, pour cesser ce massacre. Est-ce que si vous étiez à la place de Dieu, vous auriez laissé faire? Parce que c'est la question, en fait. Quand on a ce genre d'exaction qui a lieu dans une société qui est corrompue jusqu'à la moelle, qu'est-ce qu'on fait? Dieu avait promis en Genèse chapitre 6 qu'il ne je crois que c'est 6 ou 9, je sais plus, à Noé qu'il ne ferait plus de déluge, qu'il n'éradiquerait plus les humains. Il avait promis. Mais c'était une éradication totale. Là, il s'agit de peuples qui avaient dépassé les bornes en fait. Et en fait, il a fallu 4 siècles avant que Dieu intervienne. Donc vous voyez, il a usé de patience, mais à un moment donné, stop ! L'arbitre, il siffle un carton rouge. C'est pas encore la fin du match, mais c'est un carton rouge, les amis. Dehors ! Exécuté ! Tu files au vestiaire, je veux plus te voir. C'était ça, en fait. Si tu commences à être dangereux pour les autres, c'est carton rouge au foot. Fini les avertissements avec des petits cartons jaunes. Carton rouge, tu sors. Et c'est ce qui se passe ici. Est-ce que Dieu avait le droit de juger? Évidemment. Et c'est mon cinquième point, la cinquième raison. Dieu avait le droit de juger parce qu'il est notre créateur. Je vous lis ici Romains 9. Vous l'avez ici sous les yeux. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur, un vase destiné au mépris? En tant que créateur, Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut retirer, s'il veut enlever quelque chose, s'il veut exterminer des gens qui font du mal, il est libre de le faire. Qui nous sommes pour nous interposer? Qui nous sommes? C'est comme si votre enfant vous dictait ce que vous devriez faire en tant que parent. Ils ont essayé une fois les miens. Pas deux. Une fois. Il y en a une fois qui a levé sa main sur sa maman. Oh, il a regretté, je peux vous le dire. Carton jaune. Avant expulsion. Le Créateur a pleine autorité sur ce qu'il a créé, non seulement en vertu de son pouvoir, mais aussi en vertu de son légitime droit de propriété. Tout ce que Dieu a créé lui appartient. Il peut faire ce qu'il entend avec tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire toute chose. Dieu a une autorité pleine et légitime dans les questions de vie et de mort. En tant qu'auteur de la vie, il a le droit absolu de la donner ou de la retirer quand bon lui semble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est la base. Dieu est Dieu. Nous sommes que des créatures. On n'a pas à se rebeller contre notre Créateur. Sixième raison, Dieu faisait grâce aux repentants. Parce que quand on lit ces textes, hein, j'ai fait exprès de les mettre à la file pour que ça soit bien lourd. Et en fait, quand on regarde de près, on se dit, ah, tout le monde n'était pas forcément exécuté. Il y a eu effectivement trois villes, au moins trois villes, on le sait, c'était les villes qui étaient situées sur les collines, où ils ont tout rasé. Mais pas forcément pour le reste. Dieu faisait grâce aux repentants. Est-ce que vous vous souvenez de la situation de Jéricho? Non seulement ils avaient entendu à Jéricho que Josué, comme Moïse, avait ouvert le Jourdain et la mer, hein. Ils savaient ces choses, ils étaient avertis. Et ils avaient peur, ils étaient complètement paniqués à l'idée que le Dieu d'Israël n'était pas loin et qu'il devait se positionner. Ils ont eu 7 jours de plus, c'était une grâce les amis. Pendant 7 jours, silencieusement, le peuple d'Israël a fait le tour de la ville complètement. T'as 7 jours pour te repentir. Vous imaginez, en plus de tout le reste. Et bien sûr, Jéricho, tout le monde qui avait entendu parler du Dieu d'Israël s'est repenti. C'est ce qu'on lit. Combien il y a de personnes qui sont repenties, qui ont reconnu le Dieu d'Israël? Une femme. Et avec elle, toute sa famille. Rab, elle a pu sortir. Et c'est la grâce, les amis. Dieu faisait grâce. Et il le fait pas seulement à ce moment-là. Dans tous les grands jugements que Dieu opère, il manifeste sa grâce. Que ce soit au moment du déluge, tout le monde n'est pas mort. 8 personnes sont restées en vie. Que ce soit au moment du jugement de Sodome et Gomorre. Que ce soit au moment du jugement de Pharaon. Et ici, pour les Cananéens, et le jugement à venir, Dieu exerce en ce moment même sa miséricorde, sa patience et sa grâce. Et c'est ce qu'il nous dit en ce moment, c'est le message qu'il nous envoie, c'est que oui, c'était un message difficile, mais regardez ce que Dieu proposait. Il proposait la paix, verset 10 de Deutéronome 20, « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, premièrement, tu lui proposeras la paix. Ok ? Avant d'éradiquer la ville, tu lui proposes la paix. Si elle te répond par la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Ok, c'est le moindre mal. C'est mon pays, tu es dessus, je te donne le droit de rester, mais tu vas couper du bois, c'est ce qui va se passer. Tu vas faire des corvées, tu vas puiser l'eau et tu couperas du bois. C'était la corvée que les Israélites imposaient. Ça va, c'est acceptable. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle te fasse la guerre, là ça change. Alors tu l'assiégeras. L'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains et tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras et tu mangeras le butin pris sur tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Vous voyez, là, on voit encore une autre circonstance et on voit que les enfants, les femmes sont épargnés. Généralement, ceux qui mouraient dans les guerres, ça, c'est ce que j'ai lu dans un commentaire, c'était principalement les hommes. Pourquoi ? Parce qu'avant d'assiéger une ville, les gens partaient. Ceux qui restaient, c'était les soldats. Et donc eux, bah effectivement, comme ils étaient restés pour pas qu'on s'empare de la ville, c'est eux qui mouraient. Mais les femmes et les enfants étaient loin. Et donc, on le voit dans les textes, qu'ils vont être réhabilités. Beaucoup d'entre eux vont être réhabilités. Donc, malgré un jugement terrible, on voit qu'il y a toujours une grâce qui est là, qui est présente et qui est offerte. Septièmement, est-ce que vous pensez que Dieu prend plaisir à juger les gens ? Franchement. Parce que c'est ce que dit Richard Dawkins. Il le traite de sadique, de sadomasochiste. C'est violent quand même, d'une brute cruelle. C'est pas vraiment ça. Dieu est saint et parfaitement juste. Ce qu'il va imposer ici aux Cananéens, il l'imposera à son propre peuple, qui sera jugé par d'autres nations quand lui-même fera les mêmes pratiques que les Cananéens. Donc vous voyez, la sanction est la même, que ce soit pour son peuple ou que ce soit pour les Cananéens. Parce que Dieu est saint et juste et qui ne tolère pas le péché, tout simplement. Mais Dieu ne prend aucun plaisir à juger. Regardez ce que dit Ézéchiel. « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» C'est Dieu qui parle ici. « Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ?» Voilà le désir de Dieu. C'est que ses habitants de Jéricho comprennent qu'ils se détournent de leurs idoles et qu'ils aillent adorer leur Créateur, tout simplement. Et eux, ils ont préféré adorer les créatures au lieu d'adorer leur Créateur, celui qui a tout créé. Huitième raison, la conquête de Canaan était limitée dans le temps et dans l'espace. Quand on lit ces textes, on se dit, mais Dieu, il est dur, il y a des choses difficiles qui se passent, mais c'était très circonstancié. En fait, la conquête du territoire de Canaan, elle ne concernait pas tous les croyants de tous les temps. Certes, elle a été commandée par Dieu, mais elle a été limitée à une période de l'histoire. Elle a été conduite par des hommes choisis par Dieu, essentiellement Moïse et Josué, et se déroulait sous une théocratie. Elle était régie par des lois spécifiques au peuple de Dieu et ne concernait que les peuples présents en Canaan. Israël était simplement l'instrument du jugement de Dieu pour une période donnée. Comme les autres peuples seront aussi des instruments entre les mains de Dieu pour juger Israël désobéissant. Donc vous voyez, Dieu à ce moment-là a choisi Israël pour juger ses pratiques abominables. Ça signifie quoi pour nous ? Ben que ça ne nous concerne plus, les amis. Ça ne nous concerne plus. L'Église n'a aucun combat terrestre à mener, aucun territoire à conquérir, aucune condamnation à porter sur la société. L'Église est une entité spirituelle dont le quartier général se trouve en haut dans les cieux. Les chrétiens sont des étrangers ici-bas. Ce sont des pèlerins sur terre. Ils ne forment aucun gouvernement, aucune armée et ne possèdent aucune terre sainte. L'Église est juste une ambassade du ciel, c'est un phare, une lumière qui doit briller au milieu des nations. Elle ne doit pas rester en Canaan, dans une zone géographique délimitée, mais au contraire, aller dans le monde pour réconcilier les hommes de toutes les nations avec Dieu. Ça, c'est notre ministère. Mais ça ne nous concerne plus. Est-ce que c'est clair pour ça ? Pas de guerre sainte pour les croyants. Dieu a jugé le mal, et ça c'est la neuvième raison, et non condamné une extermination ethnique. Pour certains, Dieu aurait ordonné un génocide, une extermination ethnique. Et ça c'est une accusation qui est assez fréquente, en particulier chez les athées et les critiques. Mais une analyse honnête des textes et du contexte historique ne permet pas d'arriver à cette conclusion. Et c'est là où je veux en arriver. C'est que déjà, le génocide tel que défini par la Convention des Nations Unies de 1948 désigne une extermination fondée sur des motifs ethniques, raciaux ou religieux. Or, dans le cas de la conquête de Canaan, l'objectif n'est ni racial ni ethnique. Dieu ne punit pas ses peuples parce qu'ils sont cananéens. Pardon, est-ce que j'ai mis là ? Voilà, c'est la phrase qui est ici. Dieu ne punit pas ses peuples parce qu'ils sont cananéens, mais à cause de leur perversion morale et spirituelle. Et c'est très clair. Deutéronome 9, 4 et 5. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice, ni à cause de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Donc vous voyez ici, c'est un jugement et non une croisade ethnique. Un jugement pour le côté moral et spirituel et non racial ou ethnique. Il faut que ce soit très clair ça. Et dernière raison, on y arrive, dixième. La conquête de Canaan est un avant-goût du jugement final. Ce qui s'est passé à Jéricho ou à Haï est un aperçu réel, une sorte d'échantillon du jugement dernier, de ce qui attend les hommes et les femmes qui n'ont pas voulu reconnaître et adorer leur Créateur. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le carton rouge de l'arbitre. C'est pas la fin du match définitive, mais ça donne un avertissement aux autres joueurs qui tenteraient de jouer selon leurs règles. Alors l'arbitre, il a une certaine tolérance, comme Dieu. Il est patient. Il sort d'abord des cartons jaunes. Et à un moment donné, quand ça devient trop dangereux, quand on a atteint son niveau, son seuil de patience, là, il sort le carton rouge. Et c'est ce qui s'est passé dans cette situation. Mais ça, c'est qu'une un avant-goût, quelque part, du jugement dernier, du jugement qui attend toutes les créatures de Dieu, créées à son image, qui sont censées refléter l'image du Dieu créateur. Or, lorsqu'on reflète imparfaitement cette image, mais pire, qu'on souille l'image de Dieu, alors le jugement est sévère et sera sévère. Et c'est de là où j'en viens à ma conclusion. À votre avis, est-ce qu'il fallait juger les Cananéens ou pas ? Je vous ai donné 10 raisons ici. Il y en a d'autres. Mais au moins 10 bonnes raisons pour lesquelles Dieu a dû intervenir dans l'histoire. Est-ce que vous pensez que nous sommes mieux que les Cananéens ? C'est horrible ce qu'ils faisaient. Regardez ce qu'il dit juste après le verset 6. On a lu les deux premiers versets dans Deutéronome. Sache que ce n'est point à cause de la justice que l'Éternel, de ta justice, il parle à son peuple, ce n'est pas à cause de ta justice personnelle que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays, car tu es un peuple au cou raide. Israël était moins pire que les Cananéens, mais ça restait un peuple au cou raide, un peuple rebelle. On l'entend murmurer quand Dieu lui donne la manne, qu'est-ce qu'il fait ? Il murmure. Dieu lui envoie des cailles, il murmure, il y a trop de viande. Ça va jamais. Ça va jamais. En fait, le peuple de Dieu était et est toujours constitué de pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés, comme vous et moi. On peut dénoncer à juste titre l'horreur des sacrifices d'enfants que faisaient les Cananéens, mais on est guère meilleurs, les amis. On est guère meilleurs. On fait ça plus discrètement, nous. On fait ça dans les cliniques. En fait, on offre aussi des enfants, plutôt des bébés à naître. C'est qu'une question de jour. Mais le bébé est déjà là et il est bien vivant. On peut regarder même à l'intérieur du ventre aujourd'hui. Et pourtant, le taux d'avortement ne fait qu'augmenter. Et les raisons pour lesquelles on se fait avorter aujourd'hui, ce n'est pas une question vitale pour la maman. Ça peut être le cas. Et dans ce cas-là, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont la plupart du temps des avortements de confort. C'est pas le bon moment. C'est une fille, je veux un garçon. Ah, on n'a pas les finances. Vous voyez, ce sont des raisons de confort personnel. Et donc, on va aussi, nous, sacrifier des enfants. Mais on ne les voit pas. Ça se passe en clinique, on est anesthésié. Et du coup, finalement, je me suis dit, mais 225 000 avortements par an. Et ça ne fait qu'augmenter. En France, en tout cas. En Suisse, c'est beaucoup moins, forcément. Il y a moins de gens. Mais ça ne fait qu'augmenter partout sur la planète. Est-ce qu'on est mieux que les Cananéens? Vous savez qu'à Paris, il y a plus de voyants que de médecins. Est-ce qu'on est mieux que les Cananéens? Est-ce que j'ai besoin d'aborder la question des déviances sexuelles, de l'homosexualité, de la zoophilie, de la pédophilie? En fait, notre société est autant coupable que les Cananéens. Et je vais vous dire, je suis autant coupable que les Cananéens. J'ai aussi besoin d'être lavé par Jésus. Regardez ce que dit Jean en Apocalypse 22. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun ce qu'il aura fait. Si tu es un humain, si tu es une créature de Dieu, tu auras des comptes à rendre à ton Créateur. » C'est ce qu'il dit ici. Rendre, il doit mettre ses récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous qui aiment et pratiquent le mensonge. Et tous ceux, pardon, qui aiment et pratiquent le mensonge. » Ici, Jésus annonce un jugement à ceux qui n'auront pas lavé leurs vêtements. Ils vont être jetés dehors. Et vous savez quoi? J'ai absolument aucune difficulté à me retrouver dans cette liste. Mais pas celle du haut, celle du bas. En fait, Jésus dit que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. Je suis dedans. Régulièrement. Régulièrement, je suis un meurtrier. Est-ce que je suis un adorateur d'idoles? Évidemment. Bien souvent, mes pensées se laissent envahir par d'autres choses que Dieu et je vais essayer de chercher mon plaisir, mon bonheur dans d'autres choses qu'en Dieu. C'est de l'idolâtrie. Ils sont punis aussi. Le mensonge. J'avais fait la démonstration la dernière fois, je ne vais pas la refaire, mais cette semaine, j'ai découvert Claude. C'est un nouvel IA. Et donc, il faut lire les conditions générales d'utilisation avant. Forcément, il y a 25 pages. Et donc, quand je suis arrivé sur l'IA, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? J'ai lu et j'accepte. Mensonge! Sans compter toutes les semi-vérités que j'ai dû dire ou les choses que je n'ai pas dites. Je me retrouve très bien là-dedans, les amis. Très bien là-dedans. En fait, je suis beaucoup plus pécheur que je l'imagine. Et j'ose te le dire ce matin, tu es beaucoup plus pécheur que tu l'imagines. Vous savez ce que ça me rappelle? Quand je travaillais, c'est pas moi, hein, je vous rassure. Non, je mets pas ce genre de slip. En fait, j'ai travaillé pendant des années dans le nucléaire et quand on allait dans des zones chaudes, c'est-à-dire des endroits contaminés, eh bien, on avait donc une combinaison comme ces gens, la même combinaison, et parfois, il arrivait qu'on soit souillé par un déchet radioactif. Ça pouvait être une poussière, ça pouvait être de l'eau dans laquelle on va marcher, ou un siège sur lequel on s'est assis, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la radioactivité, vous ne la voyez pas. C'est pas comme de la boue ou un colorant. La radioactivité, elle est invisible. Et le seul moyen qu'on a de la vérifier, eh bien, c'est de passer dans un détecteur de radioactivité. Et c'est ce qui se passait quand on avait fini notre chantier dans la zone chaude. Eh bien, on devait tous passer Et là, on était dans la zone réacteur et on devait aller en zone libre quelque part. C'était les personnes décontaminées ou pures. Et donc, ce qui se passait généralement, c'est que on enlevait notre combinaison et si on n'avait rien touché, on passait dans le détecteur et tout allait bien. Sauf que parfois, si tu as marché dans une flaque qui était contaminée, tu arrives et là, bip, 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 ah ! Et là, t'aimes pas ce moment-là. Tu détestes ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu fais ? T'enlèves tes chaussures, t'enlèves ta combinaison et tu repasses. Et là, si par malheur, ça fait bip, 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 tu recommences. Et donc, tu enlèves tous tes habits. Et là, tu te retrouves en slip. Si tu repasses et que ça fait bip, 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 eh bien là, c'est la douche. Il faut qu'on te lave avec un savon spécial, un savon décontaminant. C'est la grosse douche. Et si jamais tu repasses et que ça bip encore, eh bien, on te rase la tête. Parce que c'est dans les cheveux. Tous les poils. Poils, cheveux, tout, tu passes à la tondeuse. Et en fait, pourquoi on fait ça, à votre avis ? Parce que le rayonnement nucléaire, les rayons gamma, détruisent nos cellules. On l'utilise en radiothérapie pour traiter les cancers parce que ça détruit les cellules mauvaises. Mais quand vous êtes en bonne santé, si vous avez de la radioactivité sur vous, ça va vous détruire, mais vous n'allez pas le voir. Ça va le faire à petit feu. Mais je peux vous dire que l'addition est salée au bout. Ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas joué ce jeu-là, et ça arrive, on débranche volontairement les détecteurs parce qu'on veut aller plus vite, c'est pour gagner plus d'argent. Et oui, ça arrive. Il y en a qui font ça. Eh bien, ils y reviennent sur le chantier plusieurs fois. Puis des fois, ils se prennent des grosses doses. On a un compteur, on a un compteur qui emmagasine toute la radioactivité qu'on prend. Et on n'a pas le droit de dépasser un certain seuil, sinon ça devient très préjudiciable et c'est peut-être même mortel. Où est-ce que je veux en venir ici ? C'est que, en fait, le péché est invisible. Mais un jour ou l'autre, il aura des conséquences dans ta vie. Tu ne le vois pas, t'en es peut-être pas conscient, mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et nous sommes tous pécheurs devant la mort. Lorsque tu vas arriver au ciel, parce qu'un jour tu vas y arriver, tout le monde d'entre nous, on va mourir. Quand tu vas te présenter devant le portique anti, là ce ne sera pas pour de la radioactivité, mais ce sera par rapport au péché. Est-ce que tu peux dire que Jésus, tu t'es lavé avec le savon de Jésus ? Parce que sinon ça va sonner et tu pourras tout faire. Tu pourras tout faire, te raser la tête, tout ce que tu veux, à chaque fois que tu vas passer, ça va sonner. Dieu, aujourd'hui, te dit, utilise mon savon. Et le savon de Jésus, c'est son sang. Il purifie de tout péché. Jésus est mort sur une croix pour purifier nos péchés. Et c'est pour ça qu'on doit le confesser. C'est pour ça qu'on doit accepter, se laisser laver par Jésus. Et c'est la conclusion d'Apocalypse 22. Il dit, regardez, magnifique ce texte, verset 17, je crois que je l'ai mis ici. Non, je ne l'ai pas mis, mais je vous le lis. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend ces paroles dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Dieu te tend sa main de grâce ce matin. Oui, il va y avoir un jugement. On a eu un aperçu de ce que c'était. C'est horrible, c'est terrible. Personne ne voudrait vivre ça. Et pourtant, c'est qu'un avant-goût, les amis, de ce qui va se passer si on n'est pas lavé, si on ne passe pas au détecteur de péché devant Dieu dans le ciel. Donc ce matin, Dieu t'invite à le recevoir. Il t'offre cette eau de la vie pour te laver gratuitement. Pas besoin de faire d'œuvre. Pas besoin d'adhérer à une église ou à quoi que ce soit ou de faire des dons financiers. Non. Gratuitement, par la foi. Dieu te demande de lui faire confiance. Ce qu'il a demandé aux habitants cananéens, c'était de lui faire confiance. Et ils n'ont pas voulu, et on connaît le résultat. C'est solennel ce que je vous dis ce matin. Solennel. Tu as encore le choix, tu es sous la grâce. Dieu ne te force pas, mais il te demande. Il te dit, si tu n'es pas lavé, tu passeras jamais le portique là-haut.